Merci de rester à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Gilles Moreau. Gilles, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, une trêve fragile, mais une trêve tout de même entre Iraniens et Israéliens après plus de 10 jours d'hostilité. L'Iran accuse Israël d'avoir mené des frappes après l'annonce du cessez-le-feu par Donald Trump. L'Iran déclare aussi qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de son programme nucléaire. Le gouvernement Netanyahou, lui, estime avoir atteint tous ses objectifs de guerre, le premier d'entre eux étant de détruire les installations nucléaires de son ennemi, à suivre dans un instant. Dans ce contexte, un sommet de l'OTAN s'ouvre à La Haye en présence de Donald Trump. Sous la pression des États-Unis, l'OTAN doit décider une forte hausse de ses dépenses de sécurité. De nombreuses réactions saluaient l'annonce par le président américain Donald Trump d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Réactions venues de Russie, de Chine, d'Arabie Saoudite, d'Europe. L'Union européenne salue cette annonce et rappelle que les négociations sont la seule solution viable. Autre réaction significative, celle des bourses mondiales reparties en forte hausse. En Irak, les autorités ont maintenant rouvert l'espace aérien après 12 jours de fermeture. Israël a donc annoncé avoir accepté un cessez-le-feu tout en jurant de réagir avec force à toute violation. Le gouvernement Netanyahou estime avoir atteint tous ses objectifs de guerre après une dizaine de jours d'hostilité. Des opérations dans le but affiché de détruire les installations nucléaires de l'Iran. Franck Alexandre.
Il faut savoir finir une guerre d'abord, car les capacités de frappe aérienne israélienne ne sont pas illimitées. Et puis le stock d'intercepteurs de leur système antimissile finit lui aussi par se vider. Le premier but de guerre pour Israël était de freiner durablement le programme nucléaire militaire iranien. Dans l'attente d'une évaluation précise des destructions des sites de Fordo, Natanz et Ispahan, il semble déjà acquis que le programme a été renvoyé quelques années en arrière. Deuxième victoire, être parvenu à arracher l'entrée en guerre des États-Unis, la plus puissante armée au monde, ce qui a permis d'obtenir un cessez-le-feu aux conditions de Washington et de l'État hébreu. Troisième succès, en 10 jours, l'aviation israélienne a largement entamé les capacités de riposte de l'armée iranienne, armée pourtant réputée, mais qui a perdu la moitié des rampes de lancement de missiles balistiques, sa composante de loin la plus redoutable. L'isolement de Téhéran est aujourd'hui flagrant. Aucun État n'a volé à son secours, pas même son allié russe. Malgré ses victoires, Israël n'est pas parvenu à faire tomber le régime des Mollahs, ce qui était là encore un but de guerre, mais qui cette fois lui échappe.
Côté iranien, la proposition américaine d'un cessez-le-feu bilatéral n'a pas été formellement acceptée. Le chef de la diplomatie a toutefois indiqué que Téhéran n'avait pas l'intention de poursuivre ses frappes si Israël arrêtait son agression. La trêve est fragile. La population du nord d'Israël peut quitter les abris, a indiqué ce matin l'armée israélienne, levant ainsi l'alerte déclenchée un peu plus tôt en raison de tirs de missiles iraniens. Le ministre de la Défense a prévenu qu'Israël riposterait avec force à toute violation du cessez-le-feu. Ces 10 derniers jours, Israéliens et Américains ont bombardé les 3 principaux sites nucléaires de l'Iran. Difficile de savoir si cela empêchera réellement le régime des Mollahs d'obtenir la bombe nucléaire. D'autant plus difficile qu'un autre site d'enrichissement a été bâti ces dernières années, plus profond et donc plus difficile à détruire, Sébastien Farcy.
Ce nouveau site se trouve juste à côté de l'usine de Natanz, fortement bombardée ces derniers jours. Il a été creusé depuis au moins 4 ans sous une montagne de 1600 mètres de haut. La Kou et Kolanganz, ou Mont de la Pioche. Sa hauteur permettrait d'enfouir un très grand nombre de centrifugeuses, et ceci à plus de 140 mètres sous terre, soit bien plus profond que pour l'usine de Fordo, qui était déjà inatteignable pour les Israéliens et a requis l'intervention américaine. À une telle profondeur, même les bombes pénétrantes des États-Unis pourraient être inefficaces. Ce qui inquiète encore plus, c'est que les Iraniens ont interdit depuis des mois les inspections du site par l'Agence internationale de l'énergie atomique en violation du traité de non-prolifération nucléaire. Une infraction qui aura peu de conséquences, car Téhéran a annoncé vouloir sortir de ce traité.
À l'instant, cette déclaration du président français Emmanuel Macron, selon lui, la situation au Moyen-Orient reste volatile et instable. C'est dans ce contexte que va s'ouvrir à La Haye, aux Pays-Bas, un sommet de l'OTAN. À l'annonce d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient est bien évidemment dans tous les esprits. Attendu ce soir à La Haye, Donald Trump, il participera à un dîner de gala à l'invitation du roi des Pays-Bas. À l'heure d'un début de désengagement américain en Europe, c'est sous sa pression que l'OTAN doit décider une forte hausse de ses dépenses dépenses de sécurité. Un accord a été trouvé dans ce cadre pour porter à 5% la part du PIB consacrée à ces dépenses. Or, l'Espagne affirme en être dispensée. En réalité, l'Espagne a obtenu un délai, lui évitant de mettre son veto, et d'autres pays pourraient demander la même souplesse. Julien Chavan a interrogé Oana Lungescu, ancienne porte-parole de l'OTAN. Elle est aujourd'hui chercheuse dans un groupe de réflexion britannique.
NATO as such doesn't have opt-outs like the European Union.
L'OTAN en tant que telle ne dispose pas de clauses dérogatoires comme l'Union européenne. Mais à travers un échange de lettres, l'Espagne a obtenu la reconnaissance d'une certaine flexibilité dans l'interprétation de cet objectif des 5%.
But of course, this sort of arrangement, whatever you call it,
bien entendu, ce type d'arrangement, quel que soit le nom qu'on lui donne, soulèvera des questions ou constituera une invitation pour d'autres pays qui, comme l'Espagne, ont eu du mal à atteindre même l'ancien objectif de 2% du PIB consacré à la défense. Des pays comme la Belgique, l'Italie par exemple, ou le Canada.
Oana Lungescu du Royal United Services Institute de Londres. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dénonce l'actuel système de distribution de l'aide humanitaire à Gaza. C'est selon elle une abomination. Ce système a été confié à un organisme soutenu par Israël et les États-Unis. Chaque jour, il donne lieu à des scènes chaotiques. Ce matin, de sources palestiniennes, 21 personnes ont été tuées par des tirs israéliens alors qu'elles se trouvaient à proximité d'un centre de distribution d'aide. En France, François Bayrou ne renonce pas malgré l'échec du conclave sur les retraites. Les partenaires sociaux, syndicats et patronats n'ont pas réussi à améliorer la réforme Borne de 2023 qui porte l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui ces organisations séparément dans une tentative de la dernière chance de surmonter les blocages. Selon lui, une voie de passage est encore possible. On écoute François Bayrou.
On est arrivé très près d'un accord historique à bien des égards. J'ai décidé d'inviter les organisations qui ont travaillé ensemble durant ces 4 mois à me rencontrer dès ce matin pour rechercher une voie de passage dans l'intérêt de notre pays. Je me suis entretenu avec la plupart d'entre elles hier soir et je pense que ce principe pourra être accepté par elles.
François Bayrou ce matin lors d'une courte prise de parole à Matignon. Dans ce dossier, il joue gros son gouvernement et cela menace d'une motion de censure votée par la gauche à l'Assemblée nationale. Toujours en France, un rapport du défenseur des droits sur les discriminations à travers les contrôles d'identité. Ce rapport met en lumière une hausse des contrôles avec une persistance des discriminations qui génère, je cite, une érosion de la confiance envers l'institution policière. Enfin, la ville de Paris a lancé les festivités en l'honneur des 10 ans de l'accord de Paris, accord international conclu en 2015. Il a marqué un tournant dans la lutte contre le changement climatique. Hier, un sommet des maires s'est tenu à nouveau dans la capitale française. Des dizaines d'édiles ont promis de maintenir leur niveau d'ambition malgré le désengagement des États. Reportage de Lucille Gimbert.
Alors que le déni climatique a atteint le sommet de l'État aux États-Unis ou en Argentine, que les reculs environnementaux se multiplient en Europe, ces maires, eux, ne comptent pas relâcher leurs efforts pour décarboner leurs villes et les préparer aux vagues de chaleur, inondations et sécheresses intensifiées par le réchauffement mondial. Le maire de Londres, Sadiq Khan, co-préside le réseau C40 qui associe une centaine de villes.
À Freetown, par exemple, la mairesse a planté 1 million d'arbres pour empêcher les glissements de terrain et offrir de l'ombre. À Accra, le maire a fait un travail incroyable sur les déchets et à Londres, nous avons la plus grande zone d'air pur du monde. Les villes agissent alors que les gouvernements nationaux tergiversent et prennent du retard.
Et même par vent contraire, pas question de baisser les bras, affirme Yana Garcia, secrétaire à l'environnement de l'État de Californie.
L'administration Trump essaie de nous retirer illégalement notre autorité pour contrôler la pollution de l'air, pour contrôler les émissions des pots d'échappement et pour atteindre certains de nos objectifs climatiques les plus ambitieux. Mais nous nous défendons en justice et nous restons fermes sur nos engagements pour atteindre la neutralité carbone en 2045.
Et nous ne sommes pas seuls, assure-t-elle. Les collectivités américaines qui maintiennent leur ambition représentent plus de la moitié de la population et plus de 70% du PIB des États-Unis.
Lucille Gimbert, ainsi s'achève le journal sur RFI. Place maintenant à 8 milliards de voisins avec vous, Emmanuel Bastide. Bonjour.
Bonjour et merci Gilles Moreau. 50 minutes de plaisir en cuisine.